Hommage à Zorik.
Hey, le scout.
Quoi?
As-tu entendu ça?
J'ai rien entendu pantoute. T'as dû rêver ça?
Il faut être vigilant dans ce donjon-là. Ça répète une grue.
Une quoi?
Une grue. Une créature horrible qui erre entre la noirceur puis qui se nourrit d'aventuriers.
Ah ouais?
Avec des griffes acérées puis des dents longues de même.
Et sans blague.
Heureusement, on a une lanterne. Et les grues ont peur de la lumière. Tant qu'il y en a, il n'y a pas de danger.
Dis-moi, ça ressemble à quoi une grue?
Nul ne le sait. Aucun aventurier n'a jamais survécu à une attaque de grue.
Ben, comment sais-tu que ça existe si personne n'en a jamais vu?
Je le sais! Tous les aventuriers le savent!
On essaie-tu d'éteindre la lumière, juste pour voir?
T'es malade?
Ben, c'est une joke, là.
Garde tes jokes plates pour d'autres. On a un cristal magique à trouver.
N'empêche, on saura jamais c'est quoi une grue.
Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 55.
Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
My face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time I caught you out again. You spent your time in a little cubicle. In a cubicle.
À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes et bienvenue à votre émission hebdomadaire sur le monde ludique Puissance maximale en ce lundi 12 octobre, lundi de l'Action de grâce et en studio comme à l'habitude, François G. Couillard m'accompagne.
Salut Vincent Langlois!
Hey François, est-ce que tu as rendu grâce à Dieu aujourd'hui pour les récoltes de ton jardin?
Certainement.
Oui, c'est fait. Super. Et on a également en studio Raymond Poirier qui est avec nous pour une première chronique à Puissance maximale. Bienvenue.
Merci, bonjour.
Bonjour. Et on va commencer avec un petit tour de table pour voir ce qui se passe à l'émission aujourd'hui, comme à l'habitude. Nous aurons une entrevue avec Dominique Robitaille de la Fédération québécoise de trous de cul. Et vous l'avez bien entendu, on en a parlé la semaine passée avec un des propriétaires de la Ninkasi qui était avec nous. Également, nous irons voir Chantal Campagnat à Montréal pour quelques conseils de jeux spéciaux pour l'Halloween. Et Raymond, de ton côté, de quoi vas-tu nous parler?
Ben, je m'ancre dans l'actualité virale aujourd'hui. L'UQAM qui fait les manchettes à travers le monde avec un vidéo virale. Alors, on revient dans l'histoire du lip-dub de Gary Brolsna jusqu'à l'UQAM.
Excellent. Donc, on va commencer comme à l'habitude de François avec une pièce musicale.
On va aller écouter la pièce de notre collaborateur français Yannick Capmarty. Et on salue toutes les gens de Haute-Garonne et aussi toutes les gens de l'île d'Anticosti, de Yellowknife, du Canada, du monde et de l'univers qui écoute. Et ça va être la pièce de musax.info. Allez voir ça, c'est un site internet consacré à la musique de jeux vidéo. Alors, on va écouter ça. Vous êtes à puissance maximale.
Les musiques du jeu vidéo Castlevania Symphony of the Night ont été composées par Michiru Yaman. L'utilisation de clavecin, d'orgue ou de chœur donne au jeu toute l'ambiance d'un univers de vampires.
grand phénomène du web. Expliqué par Dr. Raymond Poirier.
Ça fait déjà quelques minutes que vous en salivez. Et le voici maintenant à puissance maximale, Raymond Poirier, avec sa chronique des grands phénomènes du web.
Mais merci bien. En fait, pour cette première chronique, ce premier passage, on va aller explorer un phénomène qui est peut-être un ancrage, en fait, dans la communauté Internet. Parce qu'il faut dire, avec chaque avancée de la technologie, l'humanité a de nouvelles possibilités de s'exprimer, d'exprimer son opinion, son regard, sa culture. Et généralement, on le voit et on l'a vu, on l'utilise avec des méthodes quand même toujours bien réfléchies, bien stratégiques. Avec l'avènement, par exemple, du caméscope, on a commencé à se filmer en train de faire semblant de chanter sur des chansons qui jouaient préalablement dans notre entourage. Et donc, nécessairement, avec l'avancée d'Internet, quand on a eu accès à des webcams, quand on a eu accès à des moyens de s'enregistrer, quand l'expression a été démocratisée, ben nécessairement, la première chose ou l'une des premières choses que l'humanité a cherché à faire, eh ben, c'est de s'enregistrer en faisant semblant de chanter sur des pièces musicales. Et avec ce phénomène-là vient bien entendu de grandes réussites, de grands pionniers qui ont pavé le chemin vers des phénomènes culturels marquants qui permettent de réunir l'ensemble de notre peuple, et par peuple j'entends la population mondiale qui a accès à Internet. Le premier, parce que je pense qu'en fait, l'explosion du concept de chanter en avant d'une caméra, mais avec une pièce qui joue en arrière de nous, eh ben, c'est véritablement né avec Gary Brolsma. C'est lui qui l'a rendu populaire. C'est lui qui l'a rendu cool.
C'est qui ce Gary?
Gary Brolsma, en fait, c'est un jeune homme, tout simplement, un jeune homme à tout ce que de plus anonyme, qui fréquentait le web et qui, un beau jour, a décidé de se filmer en faisant du lip-sync, donc sur la pièce donc Dragostea Dintei du groupe Ozone, dont on peut d'ailleurs écouter un petit extrait, François.
J'ai pas ça.
T'as pas l'extrait?
Non.
Ah, flûte.
Je vais regarder sur Internet pendant que tu continues ta chronique.
Voilà. Alors, donc essentiellement donc une version qui était peu populaire, enfin un groupe qui était peu connu avant l'avènement finalement de Gary Brolsma. Il faut dire que lui-même dit, ben regardez, moi je l'ai trouvé dans une autre animation Flash avec des chats en dessin animé. Et donc de cette découverte, il a décidé de s'enregistrer et de se diffuser sur le site Newgrounds. C'était en décembre de l'an 2004.
Newgrounds, on a déjà parlé, un site de réseautage artistique, un site de référence, là.
Et il faut dire, le site a eu une le vidéo a eu une popularité sans précédent sur Newgrounds. En date de tout récemment, il a été vu quoi, plus de 18 millions de fois. Il a été vu sur YouTube également. Il n'a que perdu contre le Star Wars Kid dans les clips viraux les plus vus de tous les temps. Et bien entendu, pour parler de phénomène, il faut aussi imaginer plusieurs parodies, plusieurs réinventions. Mais la question face à tout ça, et au-delà de la popularité et du travail de pionnier que fait Brolsma avec le vidéo Numa Numa, mais qu'est-ce qui explique également l'ampleur de ce phénomène?
J'ai peut-être un extrait que je pourrais passer. Ça s'appelle le Numa Dance Ozone. Je ne l'ai pas écouté d'avance, alors on va voir. Peut-être qu'on va avoir une surprise. Yes, on va se croiser les doigts.
Numa Dance Song.
Non, c'est pas ça du tout.
Alors, en fait, si on fait l'analyse, en fait, ce qui est crucial dans le succès de l'effort de Gary Brolsma, je pense que c'est véritablement l'aspect intertextuel. Il y a quatre grands principes, en fait, même, je dirais, à la limite, trois grands principes qui ont été respectés par Gary Brolsma. Le principe de l'esthétique du mauvais, le principe de l'esthétique du « oh my God, what the fuck » et le principe de la désorientation. Donc, en respectant ces trois principes-là, c'est clair qu'on augmente les possibilités d'arriver au résultat d'un clip viral. Parce qu'on le dit, généralement, les premiers 10 000 visionnements d'un clip, c'est le moment clé pour la survie et la progression d'un clip viral. Alors, le premier, le principe du mauvais, en fait, c'est essentiellement l'appréciation pour un contenu qui est, en fait, pas très, très réussi, qui est assez, plutôt mauvais, donc qu'il en devient à ce point amusant. Donc, le principe de l'amusement par la nullité. Parallèlement, le principe du OMG, WTF, c'est essentiellement dans le clip Numa Numa, l'espèce de réinvention d'icônes qui sont déjà connues. Parce que je pense que pour saisir aussi Gary Burisma et le génie de ce pionnier, ben faut nécessairement se replacer dans le contexte dans lequel le clip a été créé. Alors, par exemple, on voit à certains moments Gary Burisma qui bouge les bras vers le haut d'une manière un peu à l'image d'un dessin animé, alors qui fait probablement référence à des animations format GIF qu'on retrouvait sur Newgrounds à l'époque. On écoute peut-être un peu la musique pour se mettre aussi dans l'esprit du principe du mauvais avec l'aspect campy, comme on pourrait dire en anglais.
Et on saisit bien aussi la qualité auditive.
Alors, dans tout ça, justement, on joue, on génère de la surprise, on génère des questions de la part des gens. Mais pourquoi, tout d'abord, pourquoi ce clip existe-t-il? Pourquoi est-ce que je le regarde? Pourquoi est-ce que je vais le diffuser à mes amis? Alors, tout ça, donc, nécessairement important dans la diffusion et le développement d'un clip viral. Parallèlement, il y a aussi la musique qu'on a entendue qui a une qualité quand même très grande dans le principe du mauvais. Alors, donc, nécessairement, faut que ce soit une pièce qu'on connaît pas beaucoup, une pièce qui a un côté amusant également, donc qui va nous donner envie d'en faire la diffusion.
Ça marchera pas avec une pièce que tout le monde connaît, là, que tout le monde peut fredonner.
Ben, ça peut marcher, mais dans ce cas-là, faut essayer de faire autre chose. On va le voir tout à l'heure, par exemple, avec la pièce de Lucam, où là, on a été chercher une pièce que tout le monde connaît, ou même avec mon deuxième exemple, donc de promotion virale réussie avec les Backdoor Boys, où on a été joué carrément avec la musique des Backstreet Boys.
Moi, je suis vraiment impressionné parce que, bon, je m'attendais vraiment pas à voir la vidéo parce que je l'ai vu justement dans l'écran de François et je l'avais vu cette vidéo-là. Ça m'avait vraiment, vraiment impressionné à l'époque de voir ce gars-là faire en fin de compte tous ces gestes-là sur cette chanson-là. C'était quand même assez impressionnant.
Et ça m'a amené certaines questions aussi parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dit ben regardez, ce qui fonctionne avec ce clip-là, c'est aussi qu'il est spontané, c'est qu'il est beau, c'est qu'il est touchant, qu'il y a une expression poétique, qu'il y a des références à une culture Internet, qu'il y a des références à une culture spécialisée, celle de Newground, qui peut être appréciée par des gens qui ne connaissent pas la culture. Alors, c'est un clip qui, véritablement, comme tu le dis, transcende. Je pense les frontières et c'est ce qui a fait son succès. Et est-ce que Gary Burisma y a vraiment pensé ou n'y a-t-il absolument pas pensé en faisant le clip? C'est encore une question qui demeure parce que justement de par les références intertextuelles qu'on découvre dans Numa Numa, eh bien ça nous donne l'idée que ce clip-là avait été quand même mûrement réfléchi, chorégraphié, répété. Mais parallèlement, il y a une joie de vivre, il y a
une spontanéité
là-dedans et qui est essentielle d'ailleurs la spontanéité au succès de tout vidéo virale. Qui s'apparente au genre du lip-sync ou du lip-dub. Mon deuxième exemple, c'est les Backdoor Boys, parce que nécessairement, quand on arrive avec une œuvre aussi génialissime que Numa Numa, eh bien nécessairement, pour réussir à réitérer un succès viral comme celui-là, eh bien il faut réussir à aller plus loin. Alors avec les Backdoor Boys, un peu comme dans Numa Numa, on garde le décor, donc une chambre, caméra, webcam, donc c'est filmé très simplement, mais par contre, on rajoute d'autres joueurs. Alors là, la personne qui chante, la personne qui danse, elle n'est plus seule. Ils sont deux à chanter et derrière, il y a une personne qui se fiche complètement de ce qui se passe et qui joue à Counter-Strike. Et là, on entend « As long as you love me », la pièce qui a lancé les Backdoor Boys.
C'est un peu épeurant.
C'est un peu épeurant, en fait. les Backdoor Boys, c'est un phénomène qui nous vient directement de la Chine. Eux avaient été appelés les Backstreet Boys chinois, d'ailleurs. Et un phénomène Internet qui a aussi eu une diffusion ahurissante, en fait, qui a transcendé même, comme Numa Numa, les médias Internet pour passer dans le mass-média, dans les grands médias. Eux, ils sont arrivés sur la scène en mars 2005, après plusieurs tentatives, essais, erreurs. Éventuellement, avec As Long As You Love Me, ils ont réussi le clip qu'ils les a propulsés. Depuis, d'ailleurs, ils en ont réitéré plusieurs. Ils ont également été commandités, que ce soit par des compagnies de cellulaire, que ce soit par des compagnies de liqueurs, que ce soit par des compagnies d'Internet. Et ce vidéoclip-là les a même menés éventuellement à enregistrer une vraie chanson, leur premier single à eux, qui s'appelle « Oye, Oye, A », alors qu'ils ont proposé en 2006. Alors, pour voir à quel point les Backdoor Boys ont eu une influence, surtout en Chine, il faut dire quand même, une influence culturelle profonde.
Et quand ça fonctionne en Chine, ils sont plusieurs milliards, alors ça fonctionne toujours très bien.
Ça fonctionne toujours très bien. Il faut dire aussi que pour la Chine, ça devient un peu, ce groupe-là, un regard, une preuve de l'ouverture à des nouveaux médias de la part d'une nation qui était souvent fermée sur soi-même. Alors, c'est un peu une réussite nationale. Et en ce sens, les Backdrum Boys sont devenus carrément des icônes.
Mais là, tu me dis, eux autres, ils ont enregistré aussi une pièce musicale. Et là, cette fois-là, ils faisaient pas du lip-sync. Là, ils chantaient eux-mêmes. Là.
Ils chantaient eux-mêmes, mais par contre, ils l'ont produit en lip-sync.
Ah, bon.
Parce qu'il fallait respecter le concept.
Le sens.
Et on le voit donc avec les Backdrum Boys par rapport à Numa Numa, c'est qu'à chaque étape qui est franchie dans l'évolution de ce mode d'expression-là, il faut aller plus loin, il faut explorer des nouveaux territoires. Et pour qu'une vidéo soit populaire, il faut faire en sorte qu'on va renouveler en partie le genre. Alors, éventuellement, Gary Brolsma avait, bon, embrassé puis refusé le succès qu'il lui avait atteint avec Numa Numa. Et en voyant peut-être aussi le succès commercial que les Backdrum Boys ont été chercher, eh bien, lui a décidé de revenir en septembre 2006. Donc, après avoir eu des moments de réflexion, il s'est dit, ben, il faut relancer, il faut réinventer. Et ce jeu, justement, d'aller toujours un peu plus loin, il l'a pris de manière peut-être un peu trop littéral, et ça a amené d'ailleurs un flot de critiques, donc avec le deuxième clip de Gary Brolsma qui s'appelle New Numa, où là on a vraiment franchi une étape. Certes, le retour aurait eu 12 millions de visionnements, mais par contre, de par sa facture trop produite, trop réalisée, trop affinée, on avait tué toute la spontanéité qui avait fait le succès de Brolsma. D'ailleurs, même Brolsma lui-même va le reconnaître par après, en se disant, ben, je retourne à mon format avec webcam, solo, avec quelques jeux d'images, mais un jeu relativement minimaliste. Alors, il y a toujours ce défi-là quand on tente de recréer un phénomène. Alors, il faut nécessairement respecter une certaine simplicité.
Hein.
Exactement. Toujours le risque de se planter. Et parce qu'il faut rester spontané. On le soulignait, vous l'avez souligné tout à l'heure. Donc, il faut rester spontané. Et donc, nécessairement, les prochains pionniers du lip-dub et même ceux à qui le lip-dub à proprement parler est associé vont respecter ce principe-là. Alors là, il s'agit de l'équipe de Connected Ventures, venue du monde anglo-saxon. Eux, ils ont pris leur essor en 2007. C'est une agence médiatique américaine qui ont réalisé essentiellement un clip dans la bonne humeur, donc de gens qui passent en avant de la caméra, qui chantent une chanson tout bonnement, tout simplement, et dans le but de s'amuser en groupe, de s'amuser dans le contexte du travail. Alors, encore là, pourquoi ce clip-là a fonctionné? C'est parce qu'on vient de rajouter un élément, donc il y a plus de gens, il y a un nouveau lieu, contexte de travail. Et donc, ça va fonctionner et ça va être aussi excessivement copié par la suite. Mais comme généralement, la plupart des copies reprennent le principe du bureau, reprennent le principe de l'équipe de travail, reprennent le principe de l'espèce de spontanéité qu'il y a là-dedans, eh bien, nécessairement, ça ne marchera pas autant que l'original qui va rester peut-être le porte-flambeau de cette mouvance-là.
Et là, dans le clip que je suis en train de visionner, la fille n'est pas dans un environnement de travail. Elle est dans un centre d'achat et elle fonce vers un magasin, probablement pour se procurer des vêtements.
Voilà. Alors, constant renouvellement, en fait, qui est nécessaire. Et c'est un peu ce que, d'ailleurs, des grands chercheurs qui sont intéressés à ces phénomènes-là ont observé. Ils disent, ben, regardez, la première caractéristique, c'est la spontanéité du vidéo. Faut que ça ait l'air d'une chose qui a été faite sur le coup de l'inspiration, tout simplement, avec des amis, avec des camarades. On le vu avec Numa Numa. En fait, c'est l'histoire essentiellement d'un jeune garçon qui a le temps de sa vie, qui a une joie intrinsèque et qui nous rend joyeux. Il faut nécessairement que tous les clips viraux qui s'apparentent au lip-dub, lip-sync, respectent ce principe-là. Parallèlement, il faut que ça soit authentique aussi. Il faut que les gens aient l'air vrai. Il ne faut pas qu'il y ait l'air de mannequin, d'acteur. Il ne faut pas que le jeu de caméra, le jeu d'éclairage ait une qualité de studio. Il faut que tout ait l'air normal, tout ait l'air justement, encore une fois, vrai. Donc, nécessairement, en accentuant le principe de spontanéité.
Tout a l'air amateur, en fait.
Tout a l'air amateur. Et il faut aussi que ce soit l'effort de plus d'une personne, parce que avec le génie de Gary Brolsma, eh bien, on a mis de côté carrément, je pense, les expériences à une personne, parce qu'il n'y a personne qui peut faire plus, qui peut faire mieux. Donc, il s'agit de refaire. Donc, il faut nécessairement pousser plus loin. Et enfin, il faut aussi que les gens aient du plaisir, nécessairement. Donc, un réel plaisir. Et ce qui nous amène à l'invention de Lucam, en fait, qui est d'ailleurs l'un des clips viraux les plus populaires actuellement, qui répond à l'essentiel de ces critères-là, tout en réinventant le genre. Alors, on a été chercher une pièce des Black Eyed Peas, tout simplement, qui s'appelle I Got a Feeling. Mais par contre, la particularité, c'est que c'est 772 personnes qui participent à ce clip-là, donc quand même une bonne foule. De B, il y a des costumes, il y a du plaisir, il y a du délire, donc c'est nécessaire également pour aller chercher une certaine curiosité. Et de C, quand même le contexte d'une université, le contexte carrément d'une année d'études, donc d'un ensemble d'étudiants. Alors, ça nous donne presque envie d'aller étudier avec eux également. Et il faut dire que tout ça également avait été quand même fait de manière relativement spontanée en environ 2 heures. Alors, ça respecte ce principe-là également. Et ce qui explique peut-être un peu aussi pourquoi l'UQAM a eu un aussi beau succès avec ce clip. Cela dit, les grandes questions également qui se soulèvent du LibDub et notamment de l'expérience de l'UQAM, puisqu'il a été récupéré également par certaines forces politiques et idéologiques.
Non, c'est pas vrai.
Notamment l'Institut économique de Montréal qui a dit, et je cite, « Nos jeunes font rayonner le talent québécois. Bravo. Encore mieux, sans subvention. Un exploit. Car si on se fie au discours dominant au Québec sans aide de l'État, pas de création. Couper les subventions culturelles et les artistes finissent tous au McDo. Ce discours insulte le talent et la créativité et la dribouillardise des Québécois. »
Oh là là, l'Institut économique de Montréal qui s'en mêle.
Exactement, et qui soulève quand même une question qui n'est pas inintéressante, en fait. Est-ce que les lip-dubs, est-ce que le lip-sync peut être associé à un phénomène culturel identitaire ou est-ce que c'est plutôt un phénomène culturel planétaire? Et pour répondre aux gens de l'Institut économique de Montréal, moi j'aurais tendance à dire, de par le choix de la pièce musicale, une pièce des Black Eyed Peas, populaire, culture mondiale pourrait-on dire parce qu'américaine, eh bien nécessairement on n'est pas là face à un exemple d'une culture particulière, on n'a pas de particularité québécoise, à part quelques mots de français à la fin du clip de l'UQAM, eh bien nécessairement ça pourrait être n'importe quelle université, n'importe quel groupe d'étudiants, et c'est ce qui fait la beauté et la magie de la chose. Donc nécessairement c'est, oui, une manifestation culturelle, mais pas une manifestation culturelle qui est géographiquement concertée, mais plutôt une manifestation de cette culture du web, de ce désir qu'ont tous les gens de se filmer en train de faire semblant de chanter une chanson avec les moyens techniques mis à leur portée et mis à leur possibilité. Si éventuellement les moyens progressent, eh bien on verra également des gens se filmer en train de faire semblant de chanter avec des moyens techniques qui, eux aussi, continuent de progresser.
Excellent. Ben, super, vraiment. Tout un phénomène. Ça vaut la peine d'aller voir ça sur YouTube. Vous avez pris en note les différents types de chansons et les différents groupes. Merci beaucoup, Raymond Poirier, d'être passé à Puissance Maximale.
Ça me fait plaisir.
C'est peut-être un grand phénomène du web.
Eh oui!
Et j'espère que, coudonc, tu vas revenir plus le mois prochain pour en parler.
Le mois prochain, en fait, on va s'intéresser à l'Internet à usage unique.
Internet à usage unique. On va voir ça le mois prochain.
Eh oui.
Restez bien branchés.
À Puissance Maximale. Et on continue en musique, François.
Oui, on va délaisser un peu la musique populaire et l'Institut économique de Montréal et on va écouter maintenant une pièce de Pépé qui vient de sortir un nouvel album. L'album s'appelle Pépé Goes Français, tout simplement. Alors, on sert ça à nos amis français et la pièce s'appelle Laisse tomber les filles. Et c'est un peu aussi une sélection musicale que j'ai fait pour Vincent qui veut pas évidemment que je le dise. Alors, vous êtes à Puissance Maximale. Il n'y a pas de malaise dans le studio. Je ne pleurerai pas. Je ne pleurerai pas. Je vivrai si bien que
Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale.
De retour à Puissance Maximale et nous allons maintenant passer à une entrevue. Vous savez que dimanche le 18 octobre prochain à Québec aura lieu le Mondial de taux de cul. Nous en avons parlé la semaine dernière et ce sera le premier tournoi international de jeux de cartes et ça va se passer à la Ninkasi dans le cadre de la Sacrée Soirée. Et avec nous pour en parler, nous avons Dominique Robitaille au bout du fil, président de la Fédération québécoise de taux de cul. Bienvenue à Puissance Maximale.
Bonjour.
Bonjour. J'ai eu la chance justement de visiter un peu le site de la Fédération des trous de cul dernièrement et je voyais justement dans les écrits que c'était parfois les nouvelles ou parfois tout simplement ce qui est écrit sur le site de façon générale. Il y a toujours un petit ton humoristique. Alors, est-ce que le trou de cul, c'est quelque chose de sérieux?
C'est sérieux, bien sûr. C'est probablement le jeu le plus sérieux, le jeu de cartes le plus sérieux qu'il y a.
OK, donc tassez-vous le bridge, le poker, c'est pas sérieux. C'est le trou de cul, le jeu le plus de cartes le plus sérieux.
Exactement. Bien sûr, il faut savoir mesurer ses chances. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on soit son jeu, faut s'atteler sérieusement. Écoute, on peut pas viser le sommet si on n'a pas de bout de cartes, mais on peut viser un échelon, deux échelons. Et dans ce sens-là, c'est un jeu qui est très sérieux. Là. On joue pas ça tout croche, là.
Dites-moi, M. Robitaille, comment on fait pour expliquer le succès du trou de cul? Est-ce que c'est tout simplement par la simplicité des règles?
Oui, c'est un jeu qui est facile à apprendre pour les gens, mais c'est pas un jeu qui est facile à maîtriser. Donc, on peut évidemment être chanceux. Il y a des facteurs de chance là, qui rentrent là, en jeu pour des courtes périodes, mais sur des plus longues parties, si vous jouez 30-40 brasses dans une soirée, donc c'est... En général, c'est le joueur le plus habile là, qui finit par remporter. Là.
Puis pourtant, sur le site Internet, là, j'ai vu, il y a eu des tournois dans le passé. Il y en a qui ont été gagnés par des néophytes. Là.
Oui, mais bon, néophytes au niveau tournoi, mais on peut dire que souvent les gens qui viennent participer au tournoi ont déjà beaucoup d'expérience là, en jouant avec leurs amis et leur famille. Là, donc, mais oui, la chance peut aider. Là, donc, il y a deux facteurs de chance. Il y a la chance du débutant et il y a la chance du cocu. Donc, on préférait que les gens qui viennent accompagnés de leur conjoint.
C'est quoi cette histoire-là de chance du cocu?
La veine de cocu, c'est tout simplement la personne qui est cocu est en général très chanceux. Heureux en amour, malchanceux au jeu. Donc, le contraire est aussi vrai.
Eh bien, on aura appris quelque chose ici aujourd'hui avec Dominique Robitaille.
Et en lançant le premier mondial de trous de cul, justement, à Québec, vous attendez à quoi comme participation? Vous attendez vraiment à des gens là, qui connaissent le jeu, des gens qui vont venir le découvrir?
Des gens, oui, qui connaissent le jeu, peut-être à leur façon, peut-être à leur règle à eux. Nous, en voulant faire le tournoi, on veut faire connaître un peu la panoplie de règles, de variantes, donc pour montrer aux gens que toutes les façons de jouer au trou de cul sont bonnes, c'est juste qu'il y en a qui en connaissent peut-être juste une sorte, donc dans le sens, c'est pour ça qu'on appelle ça un mondial, donc c'est pour faire connaître un peu le jeu à travers le monde.
Donc si je comprends bien, lors de ce tournoi-là, il y aura différentes tables, donc différentes règles de jeu tout simplement.
Ben, en fait, on va faire jouer tout le monde à différentes règles, là, mais à différents moments là, du tournoi. Là. Donc, à telle étape, tout le monde, à tel tour, tous les gens vont jouer d'une telle façon, et ensuite, à l'autre tour d'après, on va jouer d'une autre façon. Donc,
Là, j'ai vu sur le site Internet, il y a des photos. D'ailleurs, on invite les gens à aller voir le site, troudecul.net, pour les gens qui ne nous croient pas, là, qu'effectivement, il y a une fédération québécoise de joueurs de trou de cul. Vous allez voir le site. Et il y a quelques photos qu'on voit les heureux gagnants des tournois passés et on voit qu'ils tiennent dans les mains un bol de toilette.
Oui.
C'est le trophée, c'est un bol de toilette.
Le trophée de notre tournoi annuel, c'est un bol de toilette, en effet. Donc, on prépare actuellement un trophée spécial là, pour le mondial, là, mais Donc, je vais garder la surprise là, pour dimanche prochain.
Ah, faites-nous donc la révélation sur les ondes de CKIA, là. C'est peut-être un... On va se servir de notre imagination. Peut-être que ça sera un urinoir miniature, qui sait?
Qui sait?
Dites-moi, M. Robitaille, vous jouez au trou de cul quand même depuis assez longtemps. Est-ce que vous êtes arrivé des anecdotes cocasses lors d'une partie de trou de cul?
Des anecdotes. Ben, des situations de jeu, il y en a évidemment là, beaucoup. Ça fait... Je ne peux pas me rappeler spontanément, là, donc... C'est-à-dire que ce sont des situations assez spectaculaires, là, mais disons que à mes débuts, je me rappelle une fois où j'avais énormément de jeux en tant que président, puis j'ai pris ça un peu à la légère, et disons que mon trou de cul m'a demandé du jeu meilleur que ce que j'aurais pu lui donner en temps normal, puis bon, je me sentais tellement à l'aise que je lui ai donné, puis finalement, je me suis fait totalement détrôner. Donc, ce sont ça des leçons, là, dans le sens où... Parfois, on est trop confiant, puis on prend des débats.
Ben, c'est souvent ça qui arrive, en fin de compte. C'est, on pense qu'on va rester le président tout le long de la game parce que ça a bien été pendant une coupe de main. Puis après ça, whoop, on part du premier échelon jusqu'au dernier assez rapidement avec ce jeu-là.
Exactement, c'est ça. La chance tourne, donc ça peut aller bien pour quelques brasses. Puis ensuite, on a moins de jeux. Donc l'important, c'est si on a moins de jeux, c'est bien se débrouiller avec le jeu qu'on a pour... monter les échelons une par une. Donc,
c'est ça, vous le dites, M. Robitaille, la chance tourne. D'ailleurs, le logo du Mondial, c'est un moulin avec des cartes qui tournent. Je voulais savoir, là, quand vous jouez au trou de cul, bon, il y a le président, le secrétaire, le trou de cul, etc., est-ce que vous avez des notions de jeu de rôle, là, par exemple? Est-ce que vous pouvez, quand vous jouez le président, est-ce que vous allez jouer le président ou est-ce que c'est complètement... il n'y a pas de jeu?
Il y a un jeu d'attitude qui s'installe inconsciemment ou consciemment. Donc, le président emmène un peu plus large que les autres, évidemment. Au détriment du trou de cul, évidemment, en fait, tout le monde rappelle au trou de cul qu'il faut qu'il ramasse assez rapidement. C'est très humoristique, là. Faut pas le prendre au premier degré, là. Donc, en fait, les soirées qu'on organise, c'est toujours très humoristique, là. Vous pouvez le voir un peu, là, lorsque si vous regardez les photos sur le site, souvent dans les compétitions, les gens viennent déguisés. C'est un jeu d'attitude aussi.
Déguisé en quoi? Déguisé en président d'entreprise?
Déguisé en toutes sortes de choses. Des gens déguisés en Jésus, déguisés en cowboy. Le tournoi du temps des fêtes, c'est évidemment quelque chose de très... de très ludique, là, de très festif, mais dans nos soirées plus régulières également, là, on fait des soirées où les gens viennent avec des chandails de loup.
Des chandails de loup! OK, excellent. Mais c'est ça, faut le dire, vous avez des activités régulières à Montréal. Donc, une fois par mois, si je me trompe pas, c'est à la brasserie Cherrier.
C'est bien ça. En fait, depuis nos débuts, nos activités, c'est là qu'on les fait. Notre tournoi annuel, là, que ça fait bientôt 12 ans qu'on fait, c'est à cet endroit-là qu'on a commencé. Donc, il y a 4 ans, on a commencé à faire des rencontres plus régulières. Donc, c'est à la Brasserie Charrier où également qu'on fait ça.
Et ça s'appelle le tournoi des nazes et c'est à chaque mercredi, une fois par mois. Évidemment, si les gens veulent participer, c'est facile. Hein? Ben, ils ont juste à aller à la Brasserie Charrier tous les mercredis. Ben, en fait, c'est une fois par mois, donc faut se tenir à jour sur le site internet de troudecu.net?
Exactement. Sur le site, là, vous avez les dates à jour des rencontres.
Et sinon, les gens, évidemment, qui veulent participer au Mondial de trou de cul à Québec, eh bien, c'est le 18 octobre. Ça coûte 5 $ pour participer. Et il y a des prix à gagner. Et il y a une bourse pour l'ultime président. Alors, Dominique, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter?
Venez en grand nombre. Donc, l'endroit est à une grande capacité. Donc, on va prendre autant de joueurs là, qu'il est possible d'en assurer.
Parfait. Bien, merci beaucoup, Dominique Robitaille, qui est de la Fédération québécoise de trou de cul. On va sûrement vous voir à la Ninkasi le 18 octobre prochain.
Merci.
Alors, on va aller écouter maintenant une pièce de... Ça va être Les Bleus Pelouses, qui est un groupe de Québec qui fait dans le Bluegrass. Alors, on va écouter ça. La pièce, ça s'appelle « You Rascal, You ». Vous êtes à puissance maximale et peut-être que vous nous écoutez à CKIA, CIVR ou CJBE. «
glad when you're dead, you rascal, you. I'll be glad when you're dead, with 6 feet over your head. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. I wonder what haven't you got, you rascal, you. I wonder what haven't you got, you rascal, you. I wonder what haven't you got, what you got, you got a lot. I'll be glad when you're dead, you rascal. Trying to steal, I'll be glad when you're dead, you rascal, you. Shake that thing. I'll be glad when you dead.
Ici votre Seigneur des Ténèbres, et vous êtes à l'écoute de Puissance Maximale.
De retour à Puissance Maximale, et nous avons maintenant en ligne avec nous la Fräulein Evil, notre prêtresse à tous, Chantal Capagna, en direct du Valet de cœur à Montréal. Bonjour Chantal. Alors, tu viens nous parler maintenant de jeux d'Halloween, si j'ai bien compris.
Oui, bien sûr, spécialité Halloween, l'Halloween qui quand même s'en vient rapidement dans 2 semaines.
Et qui est l'Halloween qui est notre fête préférée.
Non, pardon?
L'Halloween qui est, à mon sens, ma fête préférée. Là, on se déguise, on mange des bonbons. Quoi de mieux?
Quoi de mieux? Des squelettes, des zombies, des loups-garous. Donc, évidemment, qui parle d'Halloween parle de party. Quand on parle de party, on parle de jeux de party. Bien sûr. Donc, il existe plusieurs jeux dont le thème est horreur, zombies, squelettes, meurtre, sang. Donc, on va en discuter un peu aujourd'hui pour donner des idées aux amateurs, justement, de party d'Halloween. Alors, dans un premier temps, comment éviter le jeu zombie de Ubik où on joue une gang d'humains qui sont pris dans une ville assaillie de zombies. Donc, le but du jeu est d'essayer de se rendre au pad d'hélicoptère pour essayer de s'évader, tout en évitant de se faire manger par les zombies. Il est sorti une nouvelle extension, c'est un stand-alone, mais qui est aussi combinable avec le jeu de base qui s'appelle Humans. Et là, le joueur a le choix de jouer un zombie. Et évidemment, parce qu'il est un zombie, il a maintenant certains pouvoirs spéciaux. Et le but du jeu est d'essayer d'attraper le plus d'humains possible. On combine les deux. Le joueur peut décider de jouer un humain ou de jouer un zombie. Donc, attention, c'est le bordel total. C'est fantastique.
Sinon, je sais qu'il y a plusieurs extensions, il y a plusieurs éditions de ce jeu-là. Il y a Zombie Cat aussi, qui est pour les chiens, que tu nous avais envoyé. Alors, il y a beaucoup de plaisir là, pour les gens qui trippent zombies. C'est le jeu à avoir.
C'est absolument le jeu à avoir. Et en plus, à l'intérieur, il y a plusieurs dizaines de petites pitounes de zombies. Donc, c'est vraiment très, très cute. Ensuite, pour ceux qui sont un peu plus sérieux, un peu plus cérébraux, pour les parties un peu plus tranquilles, on peut suggérer Black Story. C'est un jeu dans lequel il y a 50 lugubres énigmes. Et on doit essayer de reconstituer ce qui s'est passé. C'est un jeu qui encourage la pensée latérale. Donc, on se retrouve face à un mystère et on doit poser des questions à un maître de jeu qui va nous tranquillement nous répondre par oui ou non. Donc, on va découvrir l'histoire petit morceau par petit bout. Évidemment, c'est un jeu qui est rempli de meurtres, de suicides, de cannibalisme et de tout ce qu'on veut. Ce n'est pas pour les cœurs sensibles, c'est plutôt pour les adultes, mais c'est vraiment très, très cute. Donc, Black Story, il existe aussi Black Story 2 pour ceux qui ont déjà dévoré le premier jeu. Donc, pour aller partir un petit peu plus tranquille.
Black Story, évidemment, qui est un jeu d'aventure, il faut avoir aussi certaines qualités narratrices. Ça peut pas nuire.
Évidemment, c'est sûr que quand on parle micro-jeu de rôle, avoir un petit peu de qualité d'imagination, ça ne nuit jamais. Donc, par exemple, dans Petit Meurtre et Fait divers, on doit essayer de se défendre. Donc, on est accusé de meurtre ou d'un fait divers. Et évidemment, on doit défendre son alibi en utilisant des mots obligés. Tous les innocents ont les mêmes mots à placer dans leur alibi et le coupable a des mots différents. Est-ce que l'enquêteur saura faire la différence entre les deux? L'avenir le dira. Donc, Petit Meurtre et Fait divers.
Et sinon, y a-t-il d'autres jeux comme ça qui seraient adéquats pour l'Halloween?
Ben évidemment, qui parle Halloween parle déguisement. Donc, dans Un souper meurtre et mystère fait toujours l'affaire dans l'Halloween. Donc, c'est pour 8 joueurs, 9 joueurs ou 10 joueurs. Donc, dans le cours d'un souper, un petit peu plus tranquille, peut-être un petit peu plus adulte, mais quand même, il y a moyen de s'amuser avec des titres comme La Grande Bouffe, Les Campings Sauvages, et etc. Donc, pour 8 joueurs, 9 joueurs ou 10 joueurs, c'est vraiment au choix des gens qui invitent. Donc, c'est évidemment très, très Halloween avec les déguisements et tout ça.
Et ça s'appelait comment, ce jeu-là?
C'est des soupers meurtres et mystères. C'est vraiment un thème. Donc, il y a plusieurs titres. Il y a toujours plusieurs titres qui sont disponibles. Max Hines, entre autres, en produit plusieurs. Il y a aussi des produits Asmodée. Donc, La mort s'habille de blanc, Meurtre à Casablanca. Ce sont des thèmes. Ça nous permet de nous habiller. C'est vraiment superbe.
Super. Alors, Chantal, est-ce que ça fait le tour?
On fait pas mal de tours, oui.
Chantal Campagnat du Valet de Cœur à Montréal. On te remercie beaucoup pour ces petites chroniques. Je sais que tu es très occupée en ce mois d'octobre. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent.
Ben, en fait, moi, je suis en train de faire mes valises. Je m'envole pour SN lundi prochain. Donc, pour la foire d'SN qui va avoir lieu du 22, 23, 24, 25 octobre à SN. Ça va être absolument fantastique. Je vous en reparlerai à mon retour.
Et on est tous jaloux.
Et profite de l'Octoberfest si c'est pas terminé.
Ciao, ciao, Chantal.
Merci, bye-bye.
Alors, c'était Chantal Campagnat, direct du Valet de Cœur, qui nous parlait de zombies, de Black Story, de petits meurtres et faits divers, et bien sûr, des jeux meurtres et mystères, enfin, contre souper meurtres et mystères qu'on peut retrouver, qui en a quand même un nombre incroyable de ces jeux-là, donc plusieurs titres. Et on va continuer en musique.
On va aller écouter Chiendent qui va faire la pièce Pitch Trip. Chiendent qui est un groupe aussi de Québec. Hein, si vous êtes de Yellowknife ou de l'île d'Anticosti et que vous voulez nous faire découvrir des groupes, n'hésitez pas, faites-nous le savoir par courriel. Tous les courriels sont sur le site de Puissance Maximale, puissancemaximale.com.
Pourquoi j'irai au Mexique? J'ai déjà vu ça dans J'ai vu du monde qui venait de là. Je connais du monde qui sont allés. Ah ouais, la tequila. Y'en a ici qui de leur musique aussi. J'ai la gueule pleine de faillitos. Puis je fume une tortillas. Je m'incite, puis je trip. 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 Je m'incite. Pourquoi j'irai voir un show? J'ai Madonna dans ma TV. J'ai le décompte à la radio. J'ai tout le Québec avec. avec moi, oh ouais. Puis j'ai une tonne de cigarettes, je me lève juste quand je vais aux toilettes. J'ai pas besoin d'aller ailleurs, j'ai la manette du bonheur. J'suis ben zip, puis j'trip. 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 J'suis ben zip, y a juste des fois, mais pas souvent. J'aimerais ça qu'il y ait du monde qui m'appelle. Genre une belle fille qui m'invite au restaurant. Peur atroce de l'effort, j'aime mieux résister en compost. Puis c'est chez le soleil, au plafond, puis une plante dans le salon que je regarde pousser tous les jours quand il y a des annonces.
Une probabilité de 40% d'averse pour cette
nuit. Michtrip, Michtrip.
Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
Nous sommes de retour pour l'actualité de la semaine, en fin de compte, ce qui a retenu notre attention à François et à moi au niveau de l'actualité du jeu en général. François, est-ce que tu as déjà joué à Super Mario Bros. Dans ton temps?
Certainement.
Eh oui, sur la Super, sur la Nintendo originale à l'époque. Eh bien, vous savez, si vous avez une Wii, qu'il y aura bientôt le nouveau Super Mario Bros. Wii qui sortira au mois de novembre. Et ce jeu-là retourne dans le passé. En fin de compte, on retourne au jeu deux dimensions avec des Mario qui se promènent comme dans le temps et qui sautent sur des méchants et qui font sortir des champignons de plafonniers incroyables. Et ce jeu-là pourra se jouer à quatre joueurs en même temps. On pourra jouer là, vraiment ensemble dans le même écran. Ce qu'on ne pouvait pas faire à l'époque avec l'original là, où on devait attendre mourir et laisser jouer le deuxième joueur. Eh bien, questionné sur ce qu'il pensait du jeu, Shigeru Miyamoto, qui est le créateur de Mario, a affirmé en fin de semaine dans une entrevue sur le site internet nintendoeverything.com que ce jeu se vendrait vraiment pendant longtemps. Donc, même si les ventes vont être incroyables à la sortie déjà, il pense que lui, ce jeu-là va se vendre pendant des années et des années à venir.
Mais est-ce que les graphiques vont être différents ou ça va être exactement la même chose?
Ils vont être différents. Ils vont être à la sauce 2009-2010. Okay. Disons, quand même des beaux graphiques, mais je veux dire, c'est quand même deux dimensions. Là. C'est la même chose qu'on avait à l'époque. Peut-être un petit peu plus raffiné. Et ceux qui pensent que ça sera extrêmement facile de jouer à ce jeu-là, il y a déjà des critiques qui l'ont essayé. Ils disent que attendez-vous à un jeu quand même assez difficile, du type Contra un peu. Vous avez déjà joué à Contra, dans lequel on se bat à deux là, pour avancer dans les tableaux. Là. C'était quand même assez difficile, mais il faut s'attendre à ça. Ça ne sera pas le petit Mario Bros facile qu'on a connu dans l'époque.
Sinon, une nouvelle qui est apparue dans Le Soleil cette semaine. Les jeux d'entraînement ont la faveur populaire. Donc ça, c'est selon l'Association canadienne du logiciel de divertissement. Les Canadiens jouent pour leur mieux-être, car 90% d'entre eux optent pour l'achat d'un jeu d'entraînement. Et d'après le directeur administratif de l'ALD, les joueurs utilisent aussi les jeux vidéo comme de nouvelles façons pour rester actifs mentalement, maintenir le contact avec leurs amis et même garder la forme. Et on souligne que l'âge moyen du joueur canadien est de près de 36 ans, donc des gens quand même assez âgés. 90% des enfants de 6 à 12 ans ont joué à un jeu vidéo dans les 4 dernières semaines. Et que les parents jouent avec leurs enfants. Que les 33% de tous les amateurs de jeux d'entraînement indiquent qu'un titre de logiciel de divertissement comme Wii Fit ou Nintendo DS Brain Age a été le premier jeu vidéo qu'ils aient jamais acheté. Donc les jeux sérieux, les jeux d'entraînement, tout ça, qui visiblement inclut les jeux d'un entraînement physique et d'entraînement mental. Et les données ont été recueillies lors d'un sondage effectué sur Internet auprès du groupe de consommateurs en ligne du NPD Group. Et il y a 3500 Canadiens qui ont participé à cette étude-là, mais bon, c'était quand même des gens qui devaient avoir Internet pour participer, donc évidemment, faut relativiser.
Il y a quelques semaines de ça, on a parlé de Machinima, qui étaient des créations vidéo, en fin de compte, cinématographiques quasiment, faites à partir de moteurs de jeux vidéo. Et cette semaine, en naviguant sur examiner.com, j'ai trouvé un Machinima du jeu Fallout 3 qui est sorti l'an dernier, si je me souviens bien, et qui est quand même très bien fait. Il y a 5 épisodes déjà qu'on peut trouver sur YouTube. Et dans la série, on suit Andrew Grafton, qui est un habitant de Washington, du Washington post-apocalyptique qu'on connaît dans le jeu Fallout. Et bon, il est sorti de sa voûte pour aller chercher une puce qui va lui permettre de refaire l'aqueduc de sa voûte, donc avoir de l'eau. Donc on suit quand même un peu l'histoire justement de Fallout. C'est très bien fait, très intéressant comme jeu. Ben, pas comme jeu, mais comme machinima. Et ben, les épisodes, comme je vous disais, sont disponibles sur YouTube et vous n'avez qu'à taper The DC Chronicles et vous allez le trouver. C'est Dracorta Productions qui fait ça.
Sinon, une grosse nouvelle dans le domaine de l'Internet. Google et les autres doivent payer pour le contenu dit Murdoch. Alors, c'est Rupert Murdoch qui est le propriétaire de l'empire médiatique News Corp, qui inclut entre autres Fox News. Donc, il a dit ça à propos des sites d'agrégateurs de contenu comme Google, Wikipédia, YouTube et Facebook. Il dit que ces sites-là doivent payer des redevances à ces compagnies parce qu'ils vont chercher les informations chez d'autres sites, comme par exemple des sites de nouvelles, comme, cyberpresse.ca, par exemple. Alors, Google réutilise ces contenus-là pour présenter ça. Alors, Rupert décide qu'il veut faire payer ces entreprises-là. Et il a dit des choses des commentaires assez tranchants. Il a dit que les agrégateurs sont des plagiaires, donc ils font du plagiat. Ils devront payer le prix s'ils veulent s'approprier leur contenu. Et il faut profiter de la tendance actuelle vers le contenu payant, a prévenu M. Murdoch. Donc, qui sait, peut-être que ce sera fini. Peut-être que la main des grandes entreprises traditionnelles de médias vont mettre la main sur la manne Internet. Qui sait?
Et côté, pour terminer au niveau des nouvelles, bien, si vous êtes des amateurs de Final Fantasy, j'ai trouvé ça sur jouer.com, et si vous êtes à Montréal le 31 octobre prochain, c'est parce que vous n'êtes vraiment pas à Québec pour voir Metallica, donc peut-être vous n'êtes pas des amateurs de Metallica le 31 octobre prochain, vous êtes peut-être à Montréal en train d'aller prendre une bière dans un bon bar, et vous êtes un amateur de jeux et de la série Final Fantasy, eh bien, une bonne nouvelle pour vous, l'orchestre de jeux vidéo présentera un spectacle à la salle Polak de l'Université McGill le soir de l'Halloween, et on jouera du Final Fantasy toute la soirée orchestrale. C'est vraiment pas mon jeu de mon côté, mais je connais des gens qui sont amateurs et sûrement qui participeront à cette soirée. Et c'est quasiment la fin de l'émission. Nous allons passer rapidement aux sorties de jeux en terminant. Les jeux qui sortent cette semaine, Uncharted 2, Among Thieves, qui est juste sur une exclusivité sur la PS3. En passant, ce jeu-là, c'était Uncharted, le premier, Drake's Fortune. Super bien coté à l'époque, et le deuxième est encore mieux coté, 9.5 chez les critiques en général. J'espère avoir la chance de l'essayer cette semaine et vous en parler la semaine prochaine. Sur la PS3 360, le jeu Brutal Legend avec la voix de Jack Black, qui est un jeu à la Psychonauts, qui a été sorti il y a quelques temps de ça. Way of Samurai 3, un jeu d'action et d'aventure historique, PS3 et 360. Si vous n'avez pas encore joué à Fallout 3, bien l'édition jeu de l'année sort cette semaine sur la PS3 et la 360 également. Si vous êtes un amateur du film Cars, le film d'animation avec les petites voitures, ou bien vous avez des enfants, vous voulez qu'ils jouent à ce jeu-là, vous voulez leur acheter, c'est disponible sur la PS3, 360 et la Wii. Pour la Wii également, Mario and Sonic at the Olympic Winter Games. Et il y aura également le jeu Yuan The Grudge, qui est basé sur le film d'horreur The Grudge, qui sera également sur la Wii. Ça met fin à l'émission d'aujourd'hui, François. On a eu la participation de Raymond Poirier, qu'on salue encore et qu'on remercie. Également Chantal Campagna, qui est passée par le téléphone nous faire un tour. Et on a eu également Dominique Robitaille, président de la Fédération québécoise de trous de cul. Et on vous rappelle que le 18 octobre prochain à la Ninkasi, ce sera le mondial de trous de cul. Vous pouvez participer. Alors, merci beaucoup, François, d'avoir été à l'émission.
Merci à toi, Vincent Langlois.
Et on se dit bonne semaine.
No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points.